Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7e ciel.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce podcast est consacré aux artisans du BDSM. Alors, le BDSM est un acronyme qui regroupe de nombreuses activités différentes, dont certaines peuvent se pratiquer sans accessoires. C'est le cas des relations de domination, où les maîtresses et maîtres sont susceptibles de faire vibrer leur partenaire avec peu de choses, du moment qu'ils sont de talent. Il suffit d'une laisse, d'une assiette de lait, d'une pince ou d'un foulard, c'est-à-dire de choses qui se trouvent facilement à la maison. On peut aussi faire sans. Pour introduire une ambiance ou un peu de tension, le léchage suffit, les regards comptent, l'assurance prime, et il n'y a besoin que d'un peu d'imagination pour bien faire. Mais d'autres pratiques nécessitent de disposer de matériel, et même de matériel bien choisi et de qualité. C'est le cas du bondage, par exemple. Il est possible d'utiliser des liens en coton, et il y a des inconditionnels du chanvre, notamment parce que c'est une corde qui pique un peu, sauf à ce que l'usure l'ait adoucie. Mais je pense que la majorité des initiés vous diront que le nylon, souvent moins cher, n'est pas adapté à tous les usages, notamment parce qu'il est susceptible de brûler la peau lors des frottements. Si l'on peut souvent pratiquer avec un budget réduit, en se procurant des sextoys relativement répandus, la passion amène certains à installer chez eux un cadre sensuel et esthétique qui peut aller jusqu'à l'aménagement de pièces entièrement dédiées au BDSM, qu'on appelle parfois des donjons. Pour aménager ce genre de salle, il faut du matériel. À ma connaissance, le marché des accessoires BDSM est relativement confidentiel en France, et il est souvent le fait d'artisans passionnés. C'est eux que je désire mettre en lumière aujourd'hui, au travers de témoignages. J'ai donc eu le plaisir d'interviewer trois artisans qui se sont spécialisés dans ce domaine. D'abord une femme préférant témoigner sous son pseudonyme, La Dame, qui commercialise ses créations notamment via le site sensuelletmarquant.com. Puis vous entendrez le témoignage de David, de la boutique Cuir et Chuchotement, et enfin Estelle, de Divine Insolence, vous dira comment elle envisage ce métier pas comme les autres. Commençons sans plus tarder.
Bonjour La Dame, puisque c'est votre pseudonyme. Merci d'avoir accepté mon invitation pour enrichir de votre expérience cet épisode consacré aux artisans du BDSM.
Bonjour, et ben c'est avec plaisir.
Je vous invite à vous présenter et à nous dire quelles sont vos diverses activités.
Donc, moi, c'est La Dame, donc c'est le pseudo sous lequel je suis connue. J'ai 37 ans, donc je suis dominatrice depuis un peu plus de 10 ans en lifestyle, pas professionnelle. Mes activités, donc je suis créatrice d'instruments BDSM, artisanaux, donc faits à la main, principalement à base de cuir et de bois.
D'accord, c'est les matériaux que vous aimez travailler, le cuir et le bois.
Oui.
Pourquoi le bois et le cuir ?
Alors déjà parce que c'est des matières nobles qui me parlent beaucoup, c'est des matières très vivantes. Bon, moi je suis fétichiste du cuir, donc forcément j'ai voulu me tourner vers ça. C'est des matières résistantes aussi, qui vont durer dans le temps. C'est des matières qui ont vraiment un toucher particulier et qui vont pouvoir un peu ajouter aux sensations qu'on va donner lors des impacts. Voilà.
D'accord. La question que je me posais quand je vous ai demandé pourquoi le bois et le cuir, c'est est-ce que ça a un rapport avec votre parcours antérieur, avec le métier que vous avez fait ou que vous auriez fait dans le passé ?
Non, pas du tout. Ça a été vraiment par passion que je me suis tournée vers ces matériaux-là.
À ce que j'ai compris des conversations qu'on a pu avoir au préalable, votre parcours qui vous a amené à devenir artisan et à créer des objets dans le cadre de BDSM est lié à votre parcours de dominatrice.
Oui, tout à fait. C'est vraiment par passion que j'ai décidé de créer mes propres instruments et ensuite de les vendre. Ce que j'aime, c'est vraiment faire vivre des sensations, des nouvelles choses, pouvoir explorer voilà la sensorialité, pouvoir mêler le plaisir et la douleur, pouvoir aller loin dans la douleur aussi, d'une manière sécuritaire. C'est ça qui m'a poussé à vraiment vouloir créer des instruments moi-même.
Et pourquoi ? Parce que ce que vous trouviez sur le marché ne vous satisfaisait pas ?
Oui, c'est ça. Il n'y avait pas assez de diversité, ça n'explorait pas assez de sensations. Moi, je voulais explorer. C'était pas forcément de bonne qualité non plus pour certains.
Donc les matériaux de prédilection, vous m'en avez parlé, c'est essentiellement le bois et le cuir. Vous ne travaillez pas d'autres matériaux?
Alors, si, je travaille avec de l'acier inoxydable, notamment pour les pics des paddles vampires. Je travaille aussi alors avec de temps en temps d'autres matériaux comme le PVC, le plastique, quand c'est des usages qui vont apporter quelque chose en plus par rapport aux matières habituelles.
Et pour vous, ça représente un temps plein, votre
Alors oui,
activité
pour
d'artisan?
moi, c'est un temps plein. Je vais passer beaucoup de temps dans mon atelier à créer, à imaginer des nouveaux accessoires aussi, et le reste du temps, je vais le passer pour répondre aux clients, pour voir les commandes personnalisées, s'il y a des désirs et des choses comme ça.
Alors justement, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous parliez un petit peu de ce que vous créez, plus particulièrement. Est-ce qu'il y a des instruments particuliers que vous préférez travailler ou est-ce que c'est à la demande? Est-ce que c'est en fonction des demandes de vos clients? Est-ce que vous faites du sur-mesure, ce genre de choses?
Alors, j'ai principalement une gamme de produits déjà constituée. Après, moi, je suis toujours ouverte à la personnalisation et aux commandes spécifiques s'il y a un désir particulier. Des fois, je sais que je reçois des demandes pour, par exemple, ajouter des pics ou des choses comme ça sur des articles qui n'en ont pas forcément. Ce que je vais travailler surtout, c'est les paddles vampires, donc des paddles qui sont faits pour le blood play. Donc pour faire saigner, donc c'est des jeux un peu extrêmes. Mais je travaille sur toute une catégorie de niveau douleur, d'ailleurs, que j'ai mis sur mon site, pour pouvoir correspondre à des personnes plutôt débutantes qui veulent s'initier à certains plaisirs. Par exemple, je fais des couteaux en bois pour faire du knife play, donc les jeux de couteaux, mais sans risquer de couper. Pour avoir les sensations, par exemple en les mettant au frigo, on peut avoir la sensation de la lame froide, des choses comme ça, jusque du coup aux paddles vampires qui vont être vraiment dans le côté extrême de l'autre côté.
A priori, vous, en tant que dominatrice, vous êtes plutôt adepte de ces jeux-là. C'est pour ça que vous avez créé ces outils-là. Quand je dis adepte de ces jeux-là, c'est adepte de jeux qui sont plutôt extrêmes, enfin que vous qualifiez vous-même de plutôt extrêmes.
Oui, c'est ça. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller vers la douleur. C'est quelque chose qui, voilà, m'apporte beaucoup, avec forcément des gens consentants et qui veulent aller dans ce sens-là également. Et oui, j'aime pouvoir avoir les instruments à ma disposition pour pouvoir infliger beaucoup de douleur et aussi infliger beaucoup de douleur sans forcément devoir y mettre beaucoup de force afin de pouvoir continuer dans la durée s'il y a des séances qui durent, voilà, quelques heures. C'est possible de pouvoir le faire avec des instruments où je sais que ça va faire mal sans que j'aie besoin d'y mettre trop d'énergie.
Finalement, quand on parle de jeux extrêmes, on imagine qu'ils sont réservés à une catégorie de la population qui est relativement restreinte. Or, si vous y passez un temps plein, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens que ça intéresse.
Oui, en effet, c'est une grosse demande. D'ailleurs, ça fait vraiment partie de mes best-sellers, c'est toute cette gamme-là. Voilà, de personnes qui ont envie d'explorer cet aspect-là. Après, j'ai des personnes qui sont moins extrêmes aussi, qui vont pouvoir aller vers ces instruments-là. Par exemple, pour griffer, il y en a qui les utilisent au lieu de taper, qui vont se servir des pics et faire des griffures, ce qui va permettre d'être beaucoup plus soft et d'utiliser l'autre côté aussi pour faire des fessées aussi, le côté bois, et ce qui va permettre aussi de pouvoir correspondre à des gens qui n'ont pas forcément envie d'aller dans l'extrême, mais à qui ça plaît quand même d'avoir ce petit côté un peu plus piquant.
J'imagine que ça participe aussi au plaisir psychologique de se dire, je vais pas le faire parce que ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire, mais c'est possible. Il y a un côté peut-être plaisant aussi pour vos clients qui ne sont pas extrêmes, mais qui apprécient le fait d'avoir un outil qui permet éventuellement d'imaginer l'être.
Oui, le côté transgressif, un peu comme il y a beaucoup de transgressions dans le BDSM, d'aller pousser un peu, chercher les limites, faire peur et impressionner dans le jeu sans forcément aller aussi loin en finale.
Par curiosité, pour avoir une idée, des paddles de ce type, vous en vendez combien dans l'année?
Je dirais que j'en vends environ une centaine par an.
D'accord. ce qui fait quand même un chiffre non négligeable. Comment vous les commercialisez? Quel est votre réseau de distribution?
Alors, je les vends principalement sur Etsy, donc qui est une plateforme normalement réservée aux artisans, et sur mon site, donc Sensuel et Marquant. Je vends aussi dans la vitrine de Cri et Chuchotement à Paris. Je crois que vous connaissez le club d'ailleurs.
Je l'ai visité une paire de fois il y a quelques années, en effet, oui. Je suis suivi, ça fait plaisir de savoir qu'on est lu. Je ne me souvenais pas qu'ils avaient une vitrine, mais...
Ah, c'est assez récent que j'ai mis ma vitrine. Ça fait peut-être un an, un peu plus d'un an peut-être.
Et vous vendez essentiellement avec ce club-là, parce qu'il me semble que sur Paris, il y en a un certain nombre d'autres. Paris ou région parisienne, il y en a un certain nombre d'autres.
Oui, là, c'est parce que l'opportunité s'est présentée. Ils avaient une vitrine libre, d'ailleurs, que j'ai remplacée pour avoir un peu plus d'espace. Donc, du coup, l'opportunité s'est présentée. Du coup, on a fait comme ça. Mais j'envisage prochainement de voir avec d'autres clubs et aussi avec Démonia.
Ça vous arrive de faire des salons? Est-ce que vous participez à des réseaux de distribution de ce type, salon professionnel ou salon réservé au BDSM? Est-ce qu'il y a des salons d'artisans BDSM? Est-ce que c'est le genre de choses qui existent?
J'ai participé à un salon l'année prochaine, principalement Femdom, sur Paris. Sinon, je n'ai pas fait d'autres salons pour le moment. Par contre, il y en a vraiment de plus en plus maintenant. C'est quelque chose qui se démocratise beaucoup. Mais ça va être surtout pour un peu des entreprises plutôt que des artisans parce que le prix des stands est assez cher tout de même.
Et
Oui,
vous
tout
travaillez
à fait.
avec les sex shops, c'est quelque chose que vous arrivez à faire ou que vous n'avez pas forcément envie de faire? Vous préférez rester en distribution directe aux clients?
Alors, les sex shops généralistes, non, ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui va m'intéresser, c'est des sex shops spécialisés du style Démonia, où là, je sais que voilà, ils peuvent vendre de la relative qualité et où je sais que je vais pouvoir m'y retrouver.
Vous diriez que dans le marché des accessoires BDSM, il y a, à votre avis, combien d'artisans en France?
En France, il y en a tout de même assez peu. On connaît pas beaucoup vraiment basés en France. Même sur Etsy, non, j'en connais assez peu.
Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec d'autres confrères artisans?
Alors pas pour le moment, mais c'est quelque chose que j'envisage et qui pourrait être très sympathique.
Est-ce que vous désirez ajouter autre chose à ce que vous m'avez déjà dit, un sujet qui vous tient à cœur, un message à faire passer?
Oui, le message que je voudrais faire passer surtout, c'est par rapport aux jeux de douleur qui sont souvent un peu mal vus par rapport au BDSM. Je pense que le but premier, même quand on est sadique, déjà c'est un sadisme consenti, et le but premier, ça va être de ressentir des choses, de pousser un peu plus loin le plaisir. Et le fait de mélanger de la douleur et du plaisir, c'est un peu comme le chaud et le froid, et ça augmente un peu les deux en même temps. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris et qui gagne à être mieux connu.
Je vous remercie d'avoir partagé un peu de votre passion avec nous. J'incite les gens qui écouteront le podcast à aller voir sur le site les photos de vos réalisations ainsi que les liens qui mèneront à votre site sensuel et marquant et également à vos réseaux.
Cela marque de façon un peu abrupte la fin de cette interview qui était une de mes toutes premières. Vous trouverez tous les liens évoqués sur mon site stivaldoman.com. À l'adresse de l'article que je mets en description. Je vous invite également à lire l'article ou à écouter sa version podcast que j'ai réalisée concernant l'établissement Cris et Chuchotements dont mon invité a parlé. C'est un endroit avec lequel j'ai une affinité particulière. C'est, en quelque sorte, un personnage à part entière du double roman que j'ai écrit avec Rose. Par ailleurs, en visitant son blog, j'ai déniché un article qu'elle a écrit et que j'ai trouvé très original et fouillé à propos des drapeaux des sexualités. Elle a accepté que je le publie sur mon site et que je l'adapte en vidéo sur YouTube. L'article et la vidéo correspondante sortiront la semaine prochaine. Je vous invite maintenant à entendre David, qui va nous parler de son parcours, de sa passion et de ses créations.
Bonjour David, de votre boutique Cuir et Chuchotement. Merci d'avoir accepté mon invitation pour enrichir de votre expérience cet épisode consacré aux artisans du BDSM. Dans un premier temps, je vous invite à vous présenter et à nous dire quelles sont vos diverses activités.
Bonjour, merci de m'accueillir en tout cas et de m'avoir invité. Je suis David, je gère la boutique Cuir et Chuchotement, en tout cas l'artisanat Cuir et Chuchotement. Je fabrique essentiellement des articles BDSM en cuir, colliers, menottes, martinets, voilà, diverses choses. C'est mon activité artisanale, on va dire.
Est-ce que vous pouvez préciser votre âge, éventuellement votre région?
Oui, bon, j'ai 50 ans. Et je suis en Normandie, dans la région de Rouen, enfin dans l'agglomération de Rouen.
Depuis combien de temps faites-vous cette activité d'artisanat?
Alors, j'ai commencé en 2019 et je suis micro-entrepreneur inscrit à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Normandie depuis 2020. Donc, ça fait un petit peu plus de 3 ans maintenant que je suis réellement artisan, entre guillemets.
D'accord, c'est une activité qui fonctionne bien, qui marche bien?
C'est une activité qui fonctionne bien, qui fonctionne même de mieux en mieux. Quand j'ai créé mon réseau, et puis avec les réseaux sociaux, notamment Instagram, mon compte a pris un peu plus d'ampleur. Et donc je suis un petit peu mieux référencé, on va dire. Et du coup, ça marche bien. Enfin, je suis content.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours et nous dire ce qui vous a amené à fabriquer des objets pour la pratique du BDSM, ce qui peut paraître étonnant de prime abord, en tout cas, c'est un marché de niche, on pourrait penser, en ce qui concerne le cuir.
Oui, tout à fait, c'est un marché de niche. J'ai commencé tout à fait par hasard. J'avais envie de créer de mes mains. J'avais des amis qui sont eux-mêmes artisans dans le bois, dans le métal, dans la laine, différentes choses. Et j'avais envie de créer de mes mains. Je trouvais l'ambiance de l'atelier assez sympathique, l'utilisation de certains outils aussi. Et puis, je me suis lancé par hasard. J'ai acheté un kit d'outils sur Internet pour travailler le cuir, parce que je me suis dit que le cuir pouvait être intéressant dans divers domaines d'ailleurs. Et j'ai acheté un kit d'outils et puis je me suis lancé et j'ai créé un collier BDSM. Alors pourquoi l'imagerie BDSM et l'esthétique BDSM m'intéressaient? Je n'étais pas forcément pratiquant moi-même. Donc j'ai créé un premier collier qui était vraiment tout pourri, je peux le dire aujourd'hui. Mais j'étais déjà content de moi et puis j'ai continué parce que la matière m'a plu, le contact de la matière m'a plu, les outils m'ont plu. Et j'ai continué comme ça, et voilà. Et petit à petit, on apprend aussi, on se développe, et on développe des compétences, et on se découvre des talents qu'on soupçonnait pas.
D'accord. Et donc aujourd'hui, vous ne fabriquez plus que des objets à destination des pratiquants BDSM, ou vous fabriquez aussi autre chose à la demande?
Pratiquement, oui. Je peux fabriquer autre chose à la demande. Alors sur mon site, j'ai notamment de la petite maroquinerie, des ceintures, mais effectivement, je me suis engagé dans cette voie-là, et c'est vrai que quand on commence à être référencé dans cette optique-là, c'est difficile après de partir un petit peu dans tous les sens. Et puis il y a des techniques qui sont un peu différentes aussi quand on fabrique des sacs à main ou je ne sais pas. Donc voilà, donc je suis resté là-dessus effectivement, mais là à l'occasion, je peux fabriquer des sacs qui sont souvent destinés à transporter le matériel BDSM d'ailleurs, mais j'ai des commandes en cours de sacs par exemple pour ça.
Quand vous dites que vous n'êtes pas forcément pratiquant BDSM, c'est parce que c'est un sujet que vous n'avez pas envie d'aborder, ou c'est parce que effectivement, vraiment, c'est juste uniquement l'esthétique particulière de certains objets BDSM qui vous attirait?
Alors, il y a 4 ans, je n'étais pas pratiquant particulièrement, effectivement. Depuis, je participe à des. Évidemment, j'ai rencontré des gens et j'ai rencontré un réseau local. Et depuis, je participe pardon, à des munch et des munch and play. Et du coup, c'est vrai que je pratique un peu, ouais, maintenant. Ce qui n'était pas tout à fait le cas au début et ce qui m'aide aussi pour la création de certains objets, parce que quand on les utilise ou on a l'occasion d'avoir des retours de gens qui les utilisent, bah c'est plus facile de savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire, la densité de l'objet, etc., etc.
D'accord. Ce qui est assez original de se dire que vous avez découvert le BDSM par le biais de votre activité d'artisan.
Oui, après, peut-être que c'était en moi quelque part, hein, c'est possible, mais
Oui.
je me suis jamais trop posé la question. Mais je pense que si j'avais vraiment pas aimé, je ne serais pas allé là-dedans. Mais oui, c'est arrivé un peu à l'envers, on va dire.
Est-ce que vous pouvez évoquer vos métiers antérieurs ou le métier actuel que vous faites en parallèle de votre activité d'artisanat?
Oui, j'ai donc un vrai métier entre guillemets à côté qui m'occupe la plupart du temps parce que je suis en micro-entreprise, mais c'est une activité secondaire. Je suis passé à 80% dans mon vrai métier qui est bibliothécaire. Alors ça m'a aidé pour la création artisanale puisque bibliothécaire, c'est rechercher de l'information. Et pour rechercher des tutos, pour rechercher des fournisseurs, pour rechercher des tanneries qui permettraient d'acheter du beau cuir, tout ça m'a aidé pour les recherches, quoi.
Vous n'aviez pas forcément d'expérience auparavant dans la maroquinerie. Pourquoi ce matériau-là en particulier? Il y en a plein d'autres. Enfin, il y a des gens qui fabriquent dans les artisans BDSM, il y a des gens qui fabriquent des meubles, il y a des gens qui fabriquent des
Eh bien,
objets en...
parce que j'ai trouvé que le cuir, on pouvait démarrer avec peu d'outillage. Quand je disais que j'avais des amis qui étaient artisans eux-mêmes, qui travaillent le bois ou le métal, et je sais ce qu'il faut comme apprentissage, comme diplôme, comme compétences techniques et comme outillage et machine pour travailler ces matières-là. Ce qui n'est pas le cas avec le cuir. On peut travailler le cuir avec une dizaine d'outils, 10-15 outils, on peut travailler le cuir. Après, on peut développer évidemment, mais donc ça me permettait de démarrer facilement, entre guillemets. Et puis parce que je trouvais que c'était une matière intéressante et j'avais d'autres idées au départ, et puis finalement je suis jamais allé là-dedans. Et donc je suis resté dans le BDSM. Voilà. Et je m'y
D'accord.
plais.
Super, c'est mieux de faire quelque chose qui nous
C'est
passionne.
mieux, ouais, exactement. Ouais.
Le BDSM ayant une aura un peu sulfureuse, en particulier en France, est-ce que cette activité d'artisan dans le cadre du BDSM vous a eu un impact sur votre famille, sur votre entourage, sur vos amis?
Alors non, j'ai souvent beaucoup de questions et les gens sont curieux, mais pas négativement, on va dire. Bon, en tout cas, les gens qui discutent avec moi sont pas dans la négativité. Je pense que ceux qui sont pas du tout, qui apprécient pas du tout, viennent pas me voir, tout simplement. Au niveau de mon travail, j'ai eu des questions, des choses comme ça, mais jamais de commentaires négatifs. Au niveau de ma famille non plus, j'ai mes enfants qui savent ce que je fais. D'ailleurs, j'ai mon fils qui passe souvent. Qui passe la tête dans l'atelier, parce que l'atelier se trouve juste à côté de la cuisine, donc forcément, voilà. Il passe la tête, il vient voir, mais il ne me pose pas de questions, mais ils savent. Et puis, autour de moi, ouais, j'ai vraiment beaucoup de curiosité, mais vraiment pour savoir comment ça se passe, quelles sont les relations possibles entre les gens, est-ce que ce n'est pas de la violence gratuite, vraiment des choses comme ça. Et souvent, les gens comprennent bien et sont assez ouverts, je trouve, finalement. Donc voilà, pour ce que je connais, en tout cas pour les gens que je côtoie.
Pour préciser, vos enfants, ils ont quel âge à peu près?
Alors, mes enfants sont grands, ils ont 18 et 21 ans. Donc voilà, c'est pas des bébés. Mais ils sont au courant. Et j'ai déjà des amis de ma fille qui étaient à la maison quand j'étais en train de faire des choses. Alors j'ai pas beaucoup de place dans mon atelier, donc parfois je me mets sur la table de la salle. Et qui était là quand je travaillais, qui m'ont posé des questions, qu'est-ce que vous faites? Ah oui, bon, c'est intéressant, tout ça. Donc c'est assez amusant, même les jeunes, hein, sont pas fermés là-dessus.
Et puis à cet âge-là, ils ont la curiosité et l'ouverture d'esprit nécessaires. Il faut imaginer, en tout cas,
Oui,
il faut l'espérer.
ouais, tout à fait. Après, je pense qu'il y a des choses qui. On va parler de 50 nuances de gris, mais je pense que les livres et le film, et les films. 50 nuances de gris, on fait aussi en sorte qu'il y ait une espèce d'ouverture là-dessus et qu'il y ait des gens qui n'étaient pas du tout pratiquants s'y intéressent ou en tout cas sachent que ça existe et que ce n'est pas forcément négatif et que ce n'est pas de la violence gratuite. Voilà. Je pense que ça a joué aussi sur le grand public, on va dire.
Ce qui n'était pas forcément ce qui était espéré par l'auteur, qui en a une vision négative de ces pratiques.
Oui, c'est une vision américaine. Bon, voilà. Oui, sans doute, mais j'avais fait une formation dans le cadre de mon métier sur la littérature érotique et des chercheurs avaient travaillé sur 50 nuances et effectivement, ça a eu un impact plutôt positif dans le sens où les gens ont pu découvrir des pratiques qu'ils n'envisageaient pas ou qu'ils voyaient effectivement de façon négative et ils ont changé d'avis sur la question. Donc c'est bien.
Oui, c'est bien. Question annexe, est-ce qu'il vous arrive de travailler avec d'autres artisans, des collègues qui font pour faire des commandes groupées ou pour faire des, par exemple, pour que vous puissiez faire la partie cuir d'un meuble de contrainte, par exemple?
Alors, j'ai déjà eu des discussions avec des artisans, des collègues artisans, sur la fabrication de meubles ou quelqu'un qui travaille l'os et la corne pour faire des manches, par exemple, de martinet. Mais pour l'instant, c'est jamais aller au-delà de la discussion et jamais au-delà de ah, ça serait bien quoi. Voilà. C'est pas engagé, mais en tout cas, oui, c'est une possibilité. Peut-être dans le futur, ça arrivera. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait de travail en binôme avec un autre artisan sur des créations comme ça.
Ce métier, cet artisanat, vous plairait au point, si vous en aviez la possibilité, d'en faire un travail à temps plein, ou ça reste une passion, que vous n'avez pas envie de développer plus que ça?
Si j'avais la possibilité notamment d'engranger plus de commandes et plus d'argent, oui, ça serait une possibilité. Mais je travaille tout à la main, toutes mes coutures sont faites main, et du coup, c'est un temps qui est incompressible. Donc, je ne peux pas produire en grande quantité vite, ce qui est problématique quand on veut vendre beaucoup. Après, on peut aussi augmenter ses tarifs de façon assez importante, ce qui fait qu'on peut vendre quelques pièces et vendre bien. Et on est sur un autre positionnement après, sur un positionnement un petit peu plus luxe, ce qui n'est pas inintéressant non plus. J'envisage de réduire mon temps de travail à mon vrai métier pour le cuir. J'ai déjà fait une première étape en passant à 80%. J'envisage de le faire parce que j'ai de plus en plus de commandes et que j'ai des délais qui s'allongent et que ça m'embête pour moi et pour les clients. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, je suis là-dessus. J'ai du temps un petit peu plus sur le travail du cuir. C'est une envie, mais est-ce que ça verra le jour? Je ne sais pas encore.
Alors, parlons maintenant un petit peu de votre production, hein, votre passion à proprement parler. Alors, justement, qu'est-ce que vous fabriquez? Quelles sont les pièces que vous préférez? Quels sont les articles que vous préférez fabriquer et pourquoi?
Je crois que je n'ai pas de préférence de pièces. J'ai beaucoup de commandes de colliers, ça c'est vrai. J'aime aussi faire des liens, des menottes, des liens de cheville. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un ensemble de contraintes qui étaient intéressantes à fabriquer. J'aime bien aussi les challenges parfois, même si des fois je me dis bah, je ne vais pas être capable de le faire. J'ai déjà refusé les commandes parce qu'il y a des choses que je suis incapable de faire ou je ne voyais pas du tout techniquement comment c'était possible de les faire. Ça m'est arrivé souvent, mais c'est arrivé. Par exemple, je ne sais pas fabriquer de fouet parce que je ne sais pas tresser le cuir et que je n'ai pas le temps d'apprendre. J'aimerais bien apprendre ça, mais pour l'instant, je n'ai pas le temps. J'aime bien, là j'ai découvert une façon de fabriquer des martinets à la florentine. Donc, ce sont des martinets qu'on utilise à deux mains, avec chacun dans chaque main un martinet. Ce sont des petits martinets relativement courts. J'ai découvert cette technique et j'aime bien fabriquer. J'aime un peu tout en fait. J'aime fabriquer des masques, j'aime fabriquer. Il y a des cuirs que j'aime moins travailler que d'autres, qui sont moins agréables à travailler. Les cuirs vernis par exemple sont très jolis. Mais ils sont assez mous, entre guillemets, et ils sont un petit peu plus difficiles à travailler. Mais c'est vrai que quand on les utilise, après, ça fait un bel objet. Donc, c'est intéressant aussi de les utiliser. J'ai pas d'objet préféré. C'est vraiment la matière elle-même qui m'intéresse. Et quand on utilise des beaux cuirs, ce que j'essaie de faire en tout cas, j'utilise des cuirs qui viennent d'Italie, et aussi des cuirs de France. J'utilise des cuirs de saumon qui viennent de France, par exemple.
Du cuir de
Euh,
saumon.
mais du cuir de saumon, tout à fait. Alors,
Ouais.
j'en ai pas vu beaucoup en BDSM qui utilisaient ce genre de cuir. C'est un cuir très fin, mais qu'on utilise en doublure avec un autre cuir de vache classique. Et ça donne un aspect particulier, effectivement, ça a un côté un peu serpent, on va dire. Et c'est une start-up lyonnaise. Il y en a d'autres en France, mais là où je me fournis pour l'essentiel, c'est là, une start-up lyonnaise, pardon. Ça fait des belles peaux avec des belles couleurs et des beaux reflets. Enfin, ça change un peu. Pour les autres cuirs, effectivement, j'achète des cuirs dans une tannerie en Toscane. Ces cuirs-là sont très agréables à travailler, sont de très belle qualité, qui prennent une belle patine. Et du coup, c'est vrai que quel que soit l'article, hein, j'ai envie de dire que je vais faire avec, de toute façon, j'apprécie travailler ces cuirs.
D'accord,
Voilà,
on sent
une
que
réponse un peu de normand, mais.
non, pas forcément, on sent que c'est le matériau qui vous plaît.
Ah oui, ben, j'ai pu tester au début quand j'étais pas en tannerie, j'étais sur une boutique qui vendait un petit peu de tout. Et quand j'ai acheté la première fois dans cette tannerie-là et que j'ai comparé les cuirs et que j'ai commencé à couper dedans, j'ai senti la différence et je me suis dit que ça n'avait rien à voir avec ce que j'utilisais avant et que c'était beaucoup plus agréable aussi à travailler. Donc forcément, on prend du plaisir quand on travaille une belle matière,
D'accord.
quelle qu'elle soit, je pense.
Et par rapport à vos clients, qu'est-ce que vous préférez, vendre des objets que vous avez créés vous-même ou vendre ou fabriquer des objets qui vous ont été demandés sur mesure et qui correspondent à un besoin particulier?
Alors, j'aime bien, effectivement, quand les clients me demandent un objet spécifique, particulier, parce que j'aime bien aussi être un peu conseil, donner des conseils sur les choix de couleurs, les choix de fils, le mariage entre les fils et les cuirs, entre les, enfin, voilà, différentes choses, ou entre la bouclerie et la couleur du cuir. Enfin, j'aime bien être aussi un peu conseil là-dessus. Après, il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, et de toute façon, voilà, on sent dans la discussion que de toute façon, ils sont focalisés sur une couleur en particulier ou sur une esthétique en particulier. Donc, il n'est pas question de leur faire changer d'avis. Mais quand les gens ne savent pas trop, parce que j'ai aussi bien des gens qui débutent et qui n'ont jamais trop utilisé ce genre d'objet, comme des gens qui sont vraiment très, très pointus et très connaisseurs. Donc, j'aime bien avoir les deux côtés. Et j'aime bien. Bah après, quand je fabrique des objets, je fabrique essentiellement à la commande et sur mesure. Soit des choses que j'ai effectivement sur mon catalogue, soit des choses qu'ils ont vues sur mon catalogue mais qu'ils veulent faire modifier, soit des choses qu'ils n'ont pas vues sur mon catalogue et qui me demandent spécifiquement.
D'accord. Maintenant, j'aimerais bien que vous me donniez une idée de enfin, du marché sur lequel vous êtes. Est-ce que vous avez une vision du marché des artisans ou des accessoires BDSM en France? Et est-ce que vous avez une connaissance de ce qui peut se faire dans d'autres pays? Est-ce que ça a un impact sur votre travail?
Alors, je me garderais bien d'avoir enfin, je pense pas avoir une vision globale sur tous les artisans français, parce que je connais pas tout le monde. J'ai déjà fait des salons, notamment il y a fin septembre, en Normandie, on a eu un salon fétiche chez BDSM, qui était le premier dans la région, où j'ai pu rencontrer des artisans que je suivais déjà. Artisans qui travaillent le bois, qui font des paddles en bois, artisans qui fabriquent des martinets, des menottes, etc., mais en caoutchouc surcyclé. Des pneus de vélo, de voiture, de tracteur, etc. Ce qu'on appelle l'upcycling en anglais, mais en français c'est surcyclé. Et donc ils utilisent ces objets-là, enfin ces déchets-là, entre guillemets, pour les transformer et leur donner une nouvelle vie. Ils font des très belles choses et en plus ils sont très sympas. J'ai pu rencontrer aussi une créatrice de vêtements latex que je connaissais via les réseaux, mais je n'avais jamais rencontré. Donc voilà. Il y a vraiment différentes choses. Il y a des gens qui utilisent, comme je vous disais tout à l'heure, de la corne et de l'os pour fabriquer des objets BDSM. Certains le bois pour faire des paddles, pour faire différentes choses. Certains le métal. En France, il me semble pas en avoir vu beaucoup. Je connais un artisan allemand là-dessus, faire des colliers, des contraintes en métal. Après, effectivement, je connais pas tous les artisans, mais en tout cas, ceux que j'ai rencontrés sont souvent des petits artisans, entre guillemets, ce ne sont pas des grandes, c'est pas l'industrie, quoi. Soit des couples, soit des individus. Et ça reste des créations de niche, mais il y a un marché dessus, effectivement. Les gens ont envie aussi d'avoir des choses faites en France, avec des matériaux de qualité. Ils sont prêts à mettre un petit peu plus cher là, pour ça. Parce qu'il y a une démarche derrière, c'est pas juste acheter sur Wish. Alors, je vais pas faire de la pub pour Wish, mais c'est pas juste acheter sur Shein ou Wish et d'utiliser des objets fabriqués en très très grande série, mais qui n'ont pas d'âme. Je pense que les gens, hein, sur cette pratique-là, en tout cas, ont envie d'avoir des objets comme ça. Après, il y a aussi des gens qui vont acheter sur Amazon, etc., ou sur Wish. Je vais en citer trois, ça c'est fait. Qui vont avoir envie d'acheter un objet qu'ils vont avoir rapidement. Mais souvent, ce sont des gens qui ne pratiquent pas beaucoup, qui débutent. Et quand ils voient que les objets ne sont pas de qualité, ne sont pas la bonne taille, vont casser très vite, à ce moment-là, ils vont se retourner vers des artisans en France ou à l'étranger, mais qui vont permettre d'avoir des objets plus solides et plus leur correspondant vraiment.
Je voudrais que vous puissiez me parler éventuellement de votre réseau, comment vous avez construit votre réseau, comment vous trouvez vos clients.
Alors, mon réseau, je l'ai construit en rencontrant des gens tout simplement lors d'un munch, de quelques munchs qui se sont déroulés à Rouen. Et puis, j'ai rencontré des gens comme ça qui me suivaient sur les réseaux, qui avaient vu ma boutique. On a discuté, on s'est rencontrés lors d'une autre soirée où là, c'était un munch and play organisé dans l'heure, dans une grande demeure. Et puis par la suite, ils ont eux-mêmes organisé des soirées privées auxquels ils m'ont invité, et puis ils ont créé une association par la suite, dont je fais partie maintenant, qui s'appelle le Carré Noir. Et cette association organise des soirées. Donc, ces soirées, effectivement, ça permet aussi de rencontrer des gens, des potentiels clients, entre guillemets, même si je n'y vais pas pour ça. Mais en tout cas, Les gens peuvent me voir, me rencontrer, discuter. Des fois, je viens avec des articles que j'ai sous la main parce que j'en ai fait un petit peu en stock et ça leur permet de les avoir en main. Parce que le contact physique avec l'objet et la matière, ça compte aussi. Ça, c'est une chose. Donc, ça m'a permis, moi, de créer mon réseau dans la région, dans la grande région, on va dire. Et pour les clients, ils me trouvent eux-mêmes souvent. C'est-à-dire que j'ai déjà vendu en Australie, en Colombie, aux États-Unis, en Finlande, et ces gens-là m'ont commandé sur mon site, soit en me suivant sur le réseau, soit pas du tout. De bouche à oreille, parfois aussi un peu. Parce que des gens ont vu, lors d'une cérémonie, lors d'une soirée, ils ont vu à l'autre bout de la France quelqu'un qui portait une de mes créations. Et puis ils ont discuté, et puis ils ont donné mon nom et ils viennent me voir après. Ça joue aussi.
Le réseau joue beaucoup dans ce domaine-là.
Oui, parce que si les gens sont contents de l'objet, du contact qu'ils ont eu avec l'artisan, forcément derrière ils vont en parler plus facilement et ils vont faire de la pub entre guillemets, en tout cas, en disant, en vantant la qualité de l'objet, du cuir. Et voilà, donc ça compte.
D'accord. L'interview touche un peu à sa fin. Est-ce que vous voudriez ajouter autre chose à ce que vous m'avez déjà dit? Avez-vous un message à faire passer, un sujet qui vous tient à cœur?
Eh ben, le message, c'est n'hésitez pas à vous renseigner sur le BDSM, à aller voir des gens. Ces gens-là ne mordent pas, enfin, en tout cas pas de prime abord. Ce sont des gens, moi j'ai trouvé des gens sains, des gens très ouverts, des gens très respectueux, plein de bienveillance aussi. Et ça compte. Et franchement, quand j'y suis allé les premières fois, je ne m'attendais pas du tout à ça. Enfin, on a toujours une vision un peu, les gens sont habillés en noir, ils sont, voilà. Ce qui est souvent le cas, mais pas toujours. Et c'est vrai que c'est une communauté assez ouverte et sympathique. Et voilà, ce sont des gens équilibrés et intéressants en plus, bien souvent. Donc n'hésitez pas, si vous avez une envie de BDSM, contactez des gens, n'hésitez pas à aller voir des munchs et par la suite, qui sait, vous pratiquerez.
Eh bien, David, je vous remercie de nous avoir parlé de votre métier, votre passion. Je vous remercie d'avoir accepté donc mon invitation. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup, merci de votre invitation et puis au plaisir. Merci beaucoup.
De la même façon que pour la créatrice précédente, vous pourrez retrouver les liens vers la boutique, les réseaux sociaux et des photos des créations de David sur mon site. Il a fait récemment un shooting avec une modèle qui met sensuellement en valeur les pièces qu'il façonne. Je vous invite maintenant à écouter le troisième et dernier témoignage de l'émission, celui d'Estelle, qui nous parle de son travail sous sa marque commerciale Divine Insolence.
Bonjour Estelle du site Divine Insolence. Merci d'avoir accepté mon invitation pour enrichir de votre témoignage cet épisode consacré aux artisans du BDSM. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire quelles sont vos diverses activités?
Oui, et bonjour, merci de m'avoir invitée. Donc Estelle, j'ai 33 ans, je suis artisan d'art Celliard-Nasher, créatrice d'accessoires BDSM en cuir depuis 4 ans sous la marque Divine Insolence et je suis située dans le Périgord en Dordogne.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous fabriquez?
Alors je fabrique divers accessoires en cuir, ça peut aller des colliers, entraves, menottes, aux accessoires de frappe, type
D'accord.
paddle, martinet, voilà.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler, comme ça fait 4 ans, donc ce n'est pas votre métier principal, est-ce que vous faites à temps plein d'ailleurs ce métier-là aujourd'hui?
Non, je le fais en dehors en fait de mon autre métier que je fais à temps plein. En fait, je suis animatrice prévention et tri des déchets. Donc, je m'occupe en fait d'éduquer les gens aux gestes de tri et en ce moment surtout. Donc, je travaille dans une structure qui gère en fait tous les déchets sur le département. Donc, moi, j'ai pour rôle en fait d'accompagner les usagers en fait aux règles de tri et surtout au volet sur les biodéchets avec le compostage.
D'accord. Et vous faites ça à temps plein.
À temps plein, oui.
Ce qui fait qu'en plus de votre activité d'artisanat et puis votre vie de famille, j'ai envie de dire, ça vous fait des journées bien remplies, j'imagine.
Oui, plutôt. On ne peut pas dire le contraire en général, mes semaines sont très très chargées.
C'est souvent le cas des passionnés.
Oui, malheureusement. Mais bon, quand on aime ce qu'on fait, comme on dit, on ne compte pas.
C'est pas moi qui vais vous contredire. Donc, ce qui serait intéressant maintenant, c'est que vous puissiez nous parler, à moi et aux auditeurs, de votre parcours, de ce qui vous a amené à vous intéresser au métier un peu particulier d'artisanat pour le BDSM?
Oui. Moi, j'ai toujours été passionnée d'artisanat, quel qu'il soit, pas forcément dans le milieu du cuir, mais étant cavalière depuis ma plus tendre enfance, en fait, je me suis dirigée naturellement vers le domaine de la sellerie.
Et donc, évidemment, la question qu'on se pose, c'est pourquoi, parce que, à ma connaissance, pour avoir un petit peu exploré votre site, vous vendez essentiellement des accessoires BDSM. Alors, pourquoi le BDSM, c'est un peu particulier quand même comme objet?
Oui. En fait, si vous voulez, moi à la base, j'étais vraiment partie pour travailler dans l'équestre, mais je me suis rendu compte très rapidement que c'était un secteur difficile et bouché. Et donc, du coup, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire qui soit quelque chose qui me passionne, qui j'avais besoin en fait de trouver un but. Hein. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire les choses par but, par envie, par passion. Donc j'ai cherché un peu et je me suis dit, en fait, on était en pleine période où on commençait un peu à parler du BDSM. Il y avait des films qui sortaient sans les citer. Donc je me suis dit, pourquoi pas, j'ai commencé à me renseigner. Parce qu'après, c'était un milieu qui m'intéressait, mais j'avais jamais passé l'a priori, si vous voulez, tout ce qu'on entend. Donc là, j'ai commencé à rencontrer des gens, à vraiment m'informer et je me suis dit pourquoi pas. Et donc pendant ma formation, j'ai commencé à dessiner des pièces, des modèles et à montrer à des personnes qui pratiquent ce que j'étais capable de produire, à prendre les conseils et évoluer et vraiment avoir une connaissance du milieu qui puisse en fait me permettre de créer des accessoires pertinents. Et c'est comme ça qu'en fait, petit à petit, j'ai créé ma marque.
D'accord. Sur votre site, il y a une photo de vous, a priori, avec un trophée, un joli trophée d'ailleurs, et on voit que vous avez un collier, sauf erreur de ma part. C'est la réalisation pour laquelle vous avez gagné quelque chose. C'était quoi? Enfin, qu'est-ce que ça illustre, cette photo, en fait?
En fait, j'ai participé il y a quelques temps maintenant à un concours qui s'organise en fait sur la Dordogne et qui récompense les femmes artisans. Et je me suis dit que de toute façon, peu importe ce qu'on crée, moi je voulais montrer que même si je suis dans l'univers BDSM, j'ai toute ma place sur le devant de la scène parce que je reste un artisan. Donc je me suis présentée avec j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit on va aller voir ce que ça donne. De toute façon, voilà, maintenant les mentalités évoluent. Donc j'y suis allée, j'ai amené quelques accessoires, pas forcément celui qu'on voit hein, sur la photo. Et j'ai parlé de mon parcours, je leur ai montré voilà, ce que j'étais capable de produire. Et à ma grande surprise, j'ai remporté la première place. Donc j'étais très très honorée qu'on me mette sur le devant de la scène et que enfin on puisse reconnaître un artisan qui fait peut-être des choses qui pour la plupart des gens sortent de l'ordinaire, en fait, sortent du commun. Et puis ça m'a permis de mettre en lumière vraiment mon artisanat, mais aussi de montrer aux gens que le BDSM, c'est pas forcément ce qu'on croit, ce qu'on entend depuis toujours. C'est autre chose. Voilà. Et c'est comme ça que du coup, j'ai pu être beaucoup médiatisée dans mon département, au moins.
C'était un concours.
En fait, c'était un concours organisé par la Chambre des métiers qui couvrait l'ensemble de la Dordogne et ouvert qu'aux femmes dans différentes catégories. Moi, j'ai participé à la catégorie chef d'entreprise de moins de 3 ans.
D'accord. Et oui, effectivement, ça peut paraître étonnant que, enfin, en tout cas, moi, ça m'étonne qu'il y ait une ouverture d'esprit de la Chambre des métiers par rapport à ce métier-là et que ça vous ait permis de gagner, en fait, hein. On aurait pu imaginer, encore aujourd'hui, malheureusement, que du fait du sujet, ou, on va dire, sulfureux, il vous aurait mis de côté, mais c'est bien, je trouve ça super. Enfin, ça m'étonne très positivement, pour être tout à fait honnête.
Mais je comprends et je m'y attendais pas du tout parce que c'est vrai que dans le discours qu'avaient les interlocuteurs, enfin ceux qui présentaient le concours, je regardais mon compagnon et je disais non, mais je ne gagnerai pas, c'est pas possible. Je pense qu'il y a trop de clichés que véhicule le BDSM. Et quand on a annoncé mon nom, je suis un peu tombée des nues et on m'a énormément félicité. Et c'est vrai que ça m'a offert, en fait, vraiment, ça m'a donné une visibilité énorme qui m'a permis de passer même à la télé, à la radio. Et j'ai toujours été très bien accueillie. Donc bon, les mentalités changent, c'est ça qu'il faut voir.
C'est super, hein. C'est un
Oui.
bon exemple en tout cas. Donc, la question que je me posais, c'est votre passion pour j'allais dire, l'équitation et puis la sellerie, peut-être, j'imagine, puisque quand vous vous êtes présenté, vous me disiez que c'était, enfin, vous vous présentez pas comme créateur d'accessoires BDSM, vous vous présentez comme, je me souviens plus exactement comment vous m'avez dit d'ailleurs.
Sellier harnacheur.
Sellier harnacheur, voilà. Bon. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce que du coup, vous harnachez pas que des chevaux avec vos
Non,
créations, je
en
veux dire.
général, non. En général, j'arnache des gens.
Mais ce qui est drôle, enfin, dans l'esprit, c'est amusant.
C'est aussi ce qui fait ma différence, c'est que moi, j'apporte peut-être un autre regard sur les accessoires, une autre touche. Parce que souvent, il y a des gens qui pratiquent l'équitation et qui me disent, je reconnais en fait la touche équestre dans vos accessoires. Donc, je pense que c'est une force aussi. Et puis, du coup, ma formation m'a permis aussi d'avoir quand même des connaissances étendues dans le cuir. Et vous voyez, de créer des choses vraiment aussi dans la sécurité, parce que c'est très important pour moi, des choses non blessantes. Enfin, je connais ma matière, je connais la sécurité, je couds à la main. Enfin, voilà, c'était important pour moi d'amener ça. Et je voulais vraiment me diversifier en fait des autres personnes qui pratiquent ce métier.
Ça fait plusieurs fois que vous parlez de votre formation pour ceux qui nous écoutent et que ça pourrait intéresser. Comment vous avez fait cette formation? Vous l'avez trouvée où? Parce que ça peut paraître étonnant. L'artisanat, c'est pas un domaine que je connais du tout, donc si vous voulez bien en parler.
Oui, en fait, ben, moi, c'est une reconversion que j'ai fait par le biais de l'AFPA. Et en fait, c'est les harnacheurs, j'ai toujours voulu faire ce métier, mais c'est vrai que j'avais des parents qui n'étaient pas trop pour, parce qu'après certaines études, on ne peut pas redescendre trop bas au niveau des paliers, comme ils appelaient ça. Donc j'ai dû attendre d'être assez émancipée pour me rediriger vers ce domaine qui m'attirait vraiment depuis le début. Et donc, grâce à l'AFPA, j'ai réussi à rentrer dans cette formation et j'ai obtenu le titre de sellier harnacheur.
Et votre formation initiale, pour comprendre, c'était quoi?
Moi, j'ai un BTS gestion et protection de la nature en spécialité éducation à l'environnement.
Oui, effectivement, ça n'a
Donc,
pas
rien à voir.
forcément de lien direct. On comprend dans ce que vous avez dit que, de la même façon que d'ailleurs David, que j'ai interviewé la semaine dernière, que si vous créez des accessoires BDSM, contrairement à ce qui peut se passer pour d'autres artisans, c'est pas parce qu'à la base vous aviez une attirance pour le BDSM. C'est votre passion pour l'artisanat qui vous a amené à vous intéresser à ça, par opportunisme, j'ai envie de dire, pour trouver un marché, en fait, si je résume bien la situation.
Alors, de base, peut-être oui, mais avec le recul, plus du tout. Parce qu'il faut être honnête, aujourd'hui, je n'en vis pas. Hein. C'est vraiment un métier passion. Et puis moi, je suis aussi passionnée par l'humain. J'ai la chance d'avoir une grande sensibilité, peut-être qui me permet aussi de capter très très vite ce que les gens attendent. Donc c'est assez pratique parce que c'est vrai que mes clients ne sont pas forcément à côté. Hein. Donc voilà, enfin, aujourd'hui, c'est de la passion pure. Et après, le BDSM, je veux dire. Moi, je suis quelqu'un de très ouverte au niveau jugement. Je veux dire, voilà, je préfère questionner les gens pour essayer de comprendre leur fonctionnement et comprendre du coup les pratiques qui en découlent. Donc, je suis vraiment très ouverte, je me sens très très à l'aise dans ce milieu. J'ai la chance d'avoir des partenaires qui sont formidables, qui m'ont ouvert les portes, même sachant que je n'étais pas du tout du milieu à la base. Et aujourd'hui, je veux dire, je peux aller dans les soirées, je me sens pas du tout mise de côté et eux ne se sentent pas mal à l'aise en ma présence.
Vous parlez de soirée.
Oui.
De soirée BDSM?
Oui, de soirée BDSM, pardon.
D'accord, ok. Ou vous allez montrer ce que vous faites, ou c'est parce que vous pratiquez aussi en parallèle?
Souvent, je vais montrer ce que je fais, surtout.
D'accord. Une question que je me posais après que vous ayez présenté votre activité tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un métier, donc votre métier principal à temps plein, et que vous exercez en parallèle votre activité d'artisan que j'appelle l'artisan BDSM, donc de sellier harnacheur. Et la question que je me posais, c'est que manifestement vous avez été médiatisé, vous me l'avez dit, vous êtes passé à la télé, à la radio. Le concours vous a donné une visibilité manifestement très intéressante. Donc la question que je me pose naturellement, c'est comment vous faites, comment vous organisez votre temps, comment vous arrivez à dormir avec ces deux métiers, ces deux activités en parallèle?
Oui, bah en fait, je suis plus qu'à temps plein dans mon autre activité, parce que je fais un 39 heures, mais j'ai la chance du coup d'avoir pas mal de RTT. Et puis, bah, il faut l'avouer, bah, je travaille le soir, hein, donc des fois très tard, suivant les commandes, et puis après le week-end. Donc c'est vrai que j'ai pas trop trop de vie, mais comme je le disais précédemment, quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, je travaille beaucoup.
La pièce que vous avez sur la photo que j'ai évoquée tout à l'heure, sur laquelle vous trenez votre trophée, la pièce de cuir que vous tenez qui a un collier, arrêtez-moi si je me trompe,
Oui.
a l'air de très belle facture. Quel est
Oui.
votre positionnement, vous, dans les accessoires BDSM? C'est plutôt du luxe?
Alors du luxe, j'irai peut-être pas jusque-là, mais du très haut de gamme. Vraiment, j'avais envie de proposer quelque chose qu'on ne trouvait pas forcément sur le marché. Donc, et puis moi, j'ai aussi besoin en fait de créer des choses qui me ressemblent. Et moi, j'aime les belles choses. J'aime les pièces uniques. J'ai pas envie forcément de vendre quelque chose à un client et d'avoir un autre client qui m'achète la même chose et puis qui se rencontre en soirée et ah ben oui, on a la même chose. Non, moi, j'avais vraiment envie que ça soit de l'unicité. Donc, j'ai essayé de proposer quelque chose. Voilà, je voulais sortir aussi de cette société de consommation dans laquelle on est et proposer vraiment des pièces qui me ressemblent, des pièces qui ressemblent à mes clients, parce que beaucoup aussi me contactent pour faire du sur-mesure et développer leur projet. Donc, je suis très à l'écoute de ça et c'est ce qui me passionne. Et puis en plus, refaire la même chose en permanence des séries, c'est trop redondant pour moi, ça m'ennuie énormément. Donc, j'essaye vraiment de proposer des choses vraiment qui me ressemblent. Donc, au niveau du marché, voilà, j'ai des concurrents qui font un peu la même chose, mais moi, vraiment, je me positionne sur du très haut de gamme, de la qualité, parce que j'ai pas envie forcément que mes clients reviennent en me disant, bah, écoutez, on a eu un problème sur la pièce, c'est cassé. Non, non. Bon, j'ai un service après-vente quand même, je garantis mes pièces, mais depuis que j'exerce, j'ai jamais eu de problème encore. Donc voilà, je propose quelque chose, qualité et unicité.
D'accord. Donc, vous faites essentiellement du sur-mesure finalement.
Oui. Bah, en grande partie, après, comme vous pouvez l'avoir vu sur mon site, j'ai quand même des propositions parce qu'il faut bien sûr que les gens voient ce que je suis capable de faire. Et puis, il y en a certains qui n'ont pas forcément d'idée, hein. Ils cherchent juste un collier, ils ont un coup de cœur et puis ils l'achètent. Donc, j'ai quand même quelques pièces que j'effectue en série, d'autres en série très limitées et d'autres en pièces uniques.
En particulier avec le cuir, j'imagine, mais encore une fois, ce n'est pas mon métier, mais en particulier avec le cuir, qui est quand même un matériau relativement rigide, hein, on n'est pas sur quelque chose d'élastique, un collier n'ira pas, un collier qui va sur quelqu'un n'ira pas sur le cou de quelqu'un d'autre, par exemple.
Ben oui, en fait, moi, je suis quelqu'un qui a, comme je vous ai dit, qui accorde beaucoup d'importance à ce que je produis. Donc, moi, mes cuirs, je vais les sélectionner directement en tannerie, hein. Je choisis des cuirs français et j'ai la chance d'avoir une tannerie dans mon département. Donc, je m'y déplace régulièrement. Et il est très important aussi de faire attention à la qualité des cuirs parce que ça va quand même sur une peau. Et de nos jours, on fait très attention maintenant à ce qu'on met sur notre peau. Donc, moi, je choisis des cuirs de grande, grande qualité avec des tannages végétaux qui sont plus respectueux des peaux. Sensible. Mais ma passion, de toute façon, c'est de faire de belles pièces et de satisfaire les clients, qu'ils soient contents, qu'ils reviennent. Enfin, moi, quand je croise des gens en soirée qui me disent qu'ils ont un collier de chez moi, que je le vois porter, enfin, c'est ma plus belle récompense. Quand je vois dans leurs yeux ou même qu'ils me disent j'en suis ravie, j'ai aucun, enfin, qu'il n'y ait aucun problème, qu'on ne vienne pas me dire oui, j'ai eu une casse, enfin, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout envie d'entendre. Donc, parfois, je me dis même, je suis folle, je vends parfois à perte tellement je passe du temps sur les petits détails, mais moi, je ne peux pas vendre. Quelque chose qui pour moi n'est pas parfait. J'ai ce besoin-là, c'est mon ADN et vraiment ça, mon entreprise me représente. C'est de la qualité, voilà, une sélection de cuir, une sélection de matériaux. Je veux pas avoir une boucle qui casse. Enfin, y a certaines pratiques où on n'a pas besoin en fait d'avoir du parasitage dans la tête en se disant est-ce que mon collier va tenir, est-ce que mon harnais va pas lâcher en voilà, ça peut mettre en danger vite. Donc moi vraiment, j'ai beaucoup, je tiens beaucoup, j'ai une grande importance en fait vraiment à la qualité des pièces que je vais ressortir.
Enfin, vous avez une telle passion dans ce que vous dites qu'on a l'impression que pour vous, une façon de participer à ce qui va se passer avec avec vos créations, hein, finalement.
Oui, bah finalement, oui, comme vous dites, moi je veux dire, mes pièces, elles sont quand même centrales dans la vie des gens, dans leur pratique, donc je participe un petit peu, oui.
Est-ce qu'il y a des accessoires que vous appréciez particulièrement de fabriquer? Est-ce qu'il y a certains types d'objets qui vous motivent plus que d'autres?
J'adore les accessoires type paddle parce que ça allie. Il n'y a pas que du cuir, il y a aussi du bois. Je travaille le bois et je me suis formée. Je suis allée voir un petit coutelier qui est pas loin de chez moi pour qu'il m'apprenne en fait à travailler le bois et parce que je tiens vraiment à maîtriser le processus de A à Z. Donc je fabrique même mes manches en bois et j'adore parce que c'est jamais les mêmes. Il y a une diversité énorme au niveau des formes, des coloris. Et allier ces deux matières, je trouve que ça sort des pièces d'une qualité exceptionnelle.
La fixation du cuir sur le bois, c'est pas forcément quelque chose. Moi, je bricole pas mal,
Oui,
hein.
je sais.
pas dans le, pas d'une façon toujours luxueuse, hein. Je suis plutôt dans le blocos parfois, j'ai envie de dire, hein, à la maison. Mais la fixation du cuir sur du bois, là, pour le coup, alors que je bricole un petit peu, c'est quelque chose qui me, je saurais pas comment faire.
Mais j'ai cherché longtemps, j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai gaspillé pas mal de cuir, pas mal de bois, et j'ai enfin trouvé un petit truc, mais du coup je ne le dirai pas. C'est mon
Vous
secret.
avez raison, secret professionnel.
Oui, je ne transmets pas ce genre de choses parce que je suis la seule en fait à créer les accessoires, les paddles, ma collection de paddles. Vous n'en trouverez pas d'autres comme ça.
D'accord, bah c'est bien. Vous êtes
Oui, c'est mon empreinte, c'est mon ADN.
trouvé un domaine dans lequel vous avez un monopole.
Voilà. Mais bon, j'aimerais quand même qu'il soit plus connu, parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal. Le marché français est un peu compliqué.
D'accord. Bah, écoutez, si cette interview peut y contribuer, pourquoi pas? Vous
Oh
pourrez
ben oui.
m'envoyer des photos que je publierai.
Avec grand plaisir.
Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est que vous me parliez un petit peu de votre vision du marché des accessoires BDSM en France. Est-ce que vous, en parallèle, vendez à l'étranger? Comment vous vendez? Comment vous vous êtes fait votre réseau? Comment vous avez trouvé vos clients? Vous pouvez me parler de ça?
Le réseau, parce que c'est par là qu'on commence, hein, mais il faut aller frapper aux portes, hein, il faut aller se présenter, il faut montrer de quoi on est capable. Donc j'ai trouvé des petits partenaires pas trop loin de chez moi, j'ai de la chance. Donc on a commencé à travailler, je leur ai montré, et puis après, les réseaux sociaux, hein, de toute façon, ça n'a pas de limite, on touche la planète entière avec les réseaux. Donc j'ai fait des pages Facebook, Instagram. Après, c'est Instagram souvent qui touche le plus parce que grâce au hashtag, maintenant, on n'a pas besoin forcément que les gens nous suivent pour nous voir et voir le travail qu'on fait. Après, au niveau du marché français, bon, c'est un peu compliqué parce que c'est vrai que peut-être je ne suis pas encore très 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 connue. Hein, je grappille petit à petit du terrain. Mais après, peut-être que parfois les prix, on va dire, bloquent les gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus dans la consommation. Beaucoup de gens ne connaissent pas aussi le cuir, il faut le dire. Donc pour eux, il n'y a peut-être pas forcément de différence entre ce que moi je vais proposer et ce qu'ils peuvent acheter sur AliExpress, hein, malheureusement. Donc il faut éduquer l'œil. Et puis il faut aussi que les gens puissent toucher. Donc j'envisage, hein, j'espère pouvoir faire. Des salons, parce que c'est vrai que sur photo, on ne se rend pas compte de la qualité. Et j'ai beaucoup de gens qui voient sur photo, et puis quand ils touchent, ils me disent, ah oui, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est un petit peu la limite qu'on a avec Internet, les écrans, tout ça.
Quand vous dites que vous avez tapé aux portes, vous avez tapé à quelle porte?
J'ai contacté des associations BDSM que j'ai trouvées sur Internet, que j'ai contacté via les réseaux sociaux, et après je suis allée aussi me déplacer dans des donjons que j'ai pas loin de chez moi. Voilà.
D'accord, donjon ouvert au public.
Pas forcément, en fait, moi j'ai, enfin, ouvert au public, c'est des donjons où on peut louer, bien sûr, mais moi j'ai contacté les gérants et je suis allée les voir en leur disant, voilà, je me présente, je fais ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut vous intéresser? Voilà. Est-ce que vous avez des
D'accord.
conseils? Et
Et
ça
donc vous
m'a ouvert d'autres portes.
disiez que pour l'instant vous n'avez pas encore fait de salon.
Non, parce que malheureusement, dans mon petit coin perdu de Périgord, il n'y a pas grand-chose. Et en France, c'est vrai que c'est souvent dans le nord de la France. Il faut avoir du temps et puis il faut avoir aussi un sacré budget à y consacrer. Et pour le moment, je n'ai pas forcément autant de temps que je le voudrais. Comme je vous l'ai dit, j'ai un métier prenant à côté. Mais j'espère que dans les années futures, oui, je vais pouvoir participer notamment à un salon qui est en Belgique pour pouvoir toucher un peu plus largement. Parce qu'après, moi, je vends exclusivement par le biais de mon site internet. Hein, même mes réseaux sociaux sont tous reliés à mon site internet. Et je vends aussi sur la plateforme Etsy, hein, en tant qu'artisan. Donc j'arrive à quand même à toucher pas mal de continents en dehors de la France.
Dans la mesure où c'est une passion pour vous, est-ce que vous envisageriez de réduire votre activité principale pour faire de la place à celle-ci?
J'aimerais beaucoup, hein. C'est sûr que ça serait un rêve de pouvoir me lever le matin et de faire, même si j'adore mon autre métier, hein, j'aime beaucoup le contact du public, la dimension environnementale me tient particulièrement à cœur, mais j'aimerais quand même vivre de ma passion, comme beaucoup de gens.
Et aujourd'hui, vous n'en êtes pas là. Enfin, financièrement parlant,
Non.
pour l'instant, vous vous y retrouvez pas.
Non, non, pour le moment, non. C'est très, très compliqué. Mais bon, je désespère pas, hein. Peut-être un jour. Qui sait?
On arrive sur la
Allez.
fin de l'interview. Est-ce que vous voudriez ajouter autre chose à ce que vous avez dit jusqu'à présent?
Non, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire, je pense.
Moi, j'ai une question supplémentaire.
Oui.
J'ai vu que vous aviez, j'ai vu une photo, je ne sais plus exactement où je l'ai trouvée, c'était peut-être sur votre Facebook. J'ai vu que vous aviez participé à la création d'une chaise, que vous aviez créé des liens adaptés à une chaise, j'allais dire BDSM, une chaise de
Oui.
contrainte ou un
Oui.
siège de contrainte. Est-ce que ça vous arrive de travailler avec d'autres artisans?
Pas assez à mon goût. J'aimerais plus travailler avec des artisans, mais oui, notamment cette chaise, oui, on m'a demandé en fait de réaliser les attaches en cuir. Elle est magnifique d'ailleurs cette chaise, elle est dans un donjon pas très loin de chez moi. Mais malheureusement, non, je pas assez à mon goût. Mais j'essaye de développer le réseau avec des artisans ébénistes, peut-être pour créer des accessoires. Mais bon, c'est compliqué. Souvent, les artisans ébénistes, ben, ils sont pas forcément dans ce milieu, donc ils ont des a priori, il faut aller les rencontrer. Puis bon, travailler avec quelqu'un, c'est des fois aussi, il faut que ça matche.
Oui.
Donc c'est pas toujours évident.
D'accord. Et une question que je voulais vous poser également, c'est donc vous travaillez dans un domaine, hein, on l'a bien compris, qui est un peu particulier, les accessoires, enfin le BDSM, les accessoires BDSM. Est-ce que ça a eu un impact sur la façon dont les gens vous ont perçu, même si vous me disiez que lors du concours, par exemple, vous avez trouvé les gens très bienveillants, quel impact ça a pu avoir d'être connu? À visage découvert en particulier dans ce métier enfin dans ce domaine particulier. Est-ce que ça a eu un impact sur votre famille, sur la façon dont vos amis vous envisagent?
Alors moi j'ai la chance qu'on ne me reconnaît pas encore. Hein. Quand je vais faire mes courses, personne m'arrête, tout va bien. Un impact sur ma famille proche ou mes amis, non, parce que de toute façon, j'ai toujours été très transparente, hein. J'ai aucune honte à ce que je fais et on m'a toujours énormément soutenue. J'ai de la chance, hein. Ma famille a toujours été derrière moi à me pousser, à me dire de continuer les fois où voilà, il y a des jours où c'est difficile, hein, quand on y met toutes ses tripes, toutes ses économies et que ça n'avance pas. J'ai la chance vraiment d'être très soutenue là-dessus. Après, j'évite d'en parler au premier abord quand je rencontre quelqu'un. Au début, je le faisais et je me suis rendu compte que malheureusement, ça me desservait, hein, les gens ne sont pas tous très ouverts. Donc, je laisse les gens me connaître sans cet aspect. Et de toute façon, ils finissent souvent par le découvrir sans que je leur dise. Et le fait qu'il m'ait connu, ça change pas grand-chose en fait. Ça rajoute un petit truc, mais bon, ça change pas leur vision. J'ai la chance vraiment que ça n'impacte pas vraiment ma vie. Et puis pour les gens que ça dérange, eh bien, c'est pas grave, hein, ils peuvent continuer leur chemin.
Et bien sur ce, c'est la fin de cette interview. Je vous remercie d'y avoir participé, d'avoir éclairé un peu avec votre parcours particulier. Et puis, je vous souhaite une excellente continuation.
Je vous remercie beaucoup. Bonne continuation à vous également.
Voilà, c'était la dernière interview de cette émission. Des informations complémentaires à propos de Divine Insolence vous attendent également dans l'article sur mon site. Je remercie encore une fois mes trois invités d'avoir participé à ce podcast, c'était une expérience très agréable. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdoman.com pour y trouver les liens en question, d'autres articles ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.